Conversation de Brick, Brock et de Berkov. Grignan, le moulin Dumas, vendredi 13 novembre 1834, 23h05. Dans le creuset d'une nuit sans lune, la tempête rugissait comme une bête déchaînée autour du moulin. Calixte Dumas était seul. Les éclairs, qui peinaient à percer l'obscurité profonde, zébraient le ciel, illuminant un court instant des scènes chaotiques d'une lumière blanche et crue, avant de les replonger dans les ténèbres. Le vent hurlait dans les arbres environnants, transformant la forêt en une mer tumultueuse de silhouettes mouvantes. À l'intérieur, les rafales secouaient la Bastide. Calixte les ressentait comme une secousse intérieure. Il avait passé la majeure partie de sa vie dans ce lieu. Le craquement des poutres en bois résonnait dans l'espace. Une musique inquiétante en sortait, mêlant l'hymne des forces naturelles au chant de la roue du moulin résilient. Calixte savait que ces structures, bien que robustes, ne pouvaient résister longtemps. Un grondement sourd s'éleva soudainement, plus fort que le hurlement du vent, comme une menace aigre et implacable. Jusqu'alors, la Bère était une rivière qui serpentait tranquillement dans le paysage rural. La voilà transformée en monstre, torrent furieux, qui engloutit tout sur son passage dans une rage aveugle. À l'entrée du bassin, quelques arbres venaient de s'effondrer à grand fracas dans l'eau. Calixte observait de la fenêtre du premier étage les eaux bouillonnantes échappées de leur lit. Elles menaçaient de noyer les terres alentour. En première ligne se trouvait la Bastide. Chaque seconde était comptée. La masse d'eau se rapprochait dangereusement des fondations du moulin. Les murailles de pierre semblaient presque trembler face à la montée inexorable de cette marée destructrice. Calixte devait se rendre à l'évidence. Le bassin était sur le point de déborder. Les avaloirs de sécurité expurgeaient déjà leur flux d'eau vertigineux. Il fut conscient que tout seul, sans aide, le combat était perdu d'avance. Amédée, son frère, était parti quelques jours à Carcassonne. Il avait été invité à présenter, lors d'une rencontre importante d'alchimistes, ses élixirs d'amour qu'il produisait dans son mandat laboratoire. Plus tôt dans la journée, son épouse Marie-Thérèse était partie visiter sa sœur, à Montélimar, accompagnée de leurs deux filles, Anne et Marie. La visite familiale devait se prolonger, compte tenu de la tempête qui faisait rage. Calixte ne s'inquiéta pas pour leur retour, reporté. Il en était même rassuré de les savoir toutes les trois bien au chaud pour la nuit. C'était un souci en moins. L'inquiétude qui obsédait Calixte était le bassin. Combien de temps allait-il tenir avant d'être englouti? Il se précipita sur le ponton du bassin. Il voulait trouver un moyen de détourner l'arrivée massive des eaux. Il pouvait voir clairement les éléments qui composaient la structure du moulin, ainsi que les berges, toutes encombrées d'arbres et branchages à demi arrachés. Calixte se sentait au bout de ses capacités. La colère de la rivière ne faiblissait pas. Il s'accroupit sur le ponton, isolé, impuissant. « Si seulement j'avais 5 ou 6 hommes avec moi, nous pourrions construire ensemble un barrage et dévier l'eau vers les champs en contrebas. » Si nous étions plusieurs, nous pourrions sauver le moulin. Calixte perdit tout espoir. Tout à coup, une présence se manifesta à quelques mètres de lui, sur la berge. Le temps et l'eau s'inclinent devant l'esprit humain, s'il est aligné avec la nature. Encore faut-il que l'humain sache trouver le bon coup de patte. Ha ha! Quoi? Qui est là? Vous vous noyez? Tout va bien? Hurla Calixte. Nous, nous noyer? Ah non, aucun risque. La voix, sortant de nulle part, parut étrange. Calixte scruta les environs. Devant lui, deux silhouettes émergèrent lentement de l'eau du bassin, qui n'était qu'à quelques mètres de lui. À sa grande surprise, il vit apparaître deux castors, parés de leur luisante fourrure. Amusés, les deux rongeurs le fixaient du regard. « Disons que nous sommes ici pour observer et profiter du spectacle des eaux. Les rivières ont leur propre sagesse, tout comme nous. Nous sommes en quelque sorte les gardiens de ce bassin. » Calixte se posa un instant la question. Son esprit ne venait-il pas de le quitter? Il avait toujours été fasciné par la nature, mais de là à converser avec des castors. « Je deviens fou ou quoi ?» Manifestement, non. Il jeta un regard circulaire. Le second castor inclina la tête. Un troisième venait de les rejoindre. « Tu vois, petit meunier, l'harmonie entre l'humain et la nature est souvent négligée. Si l'esprit humain parvient à trouver un bel équilibre entre les rivières et le temps, des merveilles peuvent s'accomplir. Mais ce soir, la rivière n'est pas contente. » Calixte dut admettre qu'il était bel et bien en train de converser avec trois castors. Il se jeta dans la conversation pleinement, aussi enthousiaste qu'intrigué. Le temps pressait et le risque était grand. « Comment puis-je trouver cet équilibre ? C'est simple et complexe à la fois. Écoute, observe, et surtout, laisse ta curiosité te guider. Les rivières murmurent leurs secrets ou crient leur agacement. « Contente-toi de rester à leur écoute !» s'exclama un castor, avec un sourire arborant de grandes dents bien affûtées. « Alors, pouvez-vous m'aider maintenant ? Que comprenez-vous de la rivière ce soir ? Qu'est-ce qui va se passer ? » demanda Calixte. « Oui, ce serait simple pour nous de t'aider. Au fait, je m'appelle Brick. Voici Brock et Berkov. Pour vous servir, mon capitaine. » Brock voulait s'exprimer aussi. Cela fait plus de 30 générations que nous vivons dans la Baire. Alors les colères de la rivière, on connaît. Nous passons notre vie à déplacer des tonnes de branchages taillés pour que la construction de nos barrages soit aussi résistante que celle des humains, faite en pierre. Berkov, le troisième castor, intervint à son tour. « Bon, faut accélérer là. Tais-toi donc, Brock. Tu raconteras notre vie plus tard. » « Oui, si le bassin déborde, tout est perdu pour moi. Aidez-moi, messieurs les castors, s'il vous plaît. Allons-y !» implora Calixte. « Oh, minute, papillon !» l'interrompit Brock. Brick reprit le propos. « Oui, tu sais, petit meunier, c'est un magnifique moulin que tu as là. Mais nous avons aussi nos préoccupations. En temps normal, quand les rivières sont calmes, les humains ne nous prennent pas vraiment au sérieux. Il n'implore pas autant que toi ce soir. » Berkov observait l'eau qui commençait à déborder du bassin au-dessus des avaloirs de sécurité. « Nous pourrions en parler plus tard ? C'est la tempête ! Le bassin déborde ! » vite s'affola Calixte. « Oui, mais as-tu déjà mangé du pâté de viande de castor ? » insista ironiquement Brock. « Au secours, c'est un cauchemar ! Vous n'êtes pas réel en fait !» cria Calixte. Berkov haussa le ton. Sa queue plate frappa le sol très puissamment. « Ce n'est pas le moment de parler cuisine, Brick. Ton plan, vite. Tu es le directeur des opérations de sauvetage de secteur, je te le rappelle. Par conséquent, ton plan, maintenant. » « Oui, un plan pour sauver le moulin, je l'ai, parce que le bassin va déborder. » sapèrent l'hypopète. « de l'eau partout, partout. » Partout, partout. Et toi, l'humain, nos congénères en pâté de viande dominicale, on les consomme accompagnés d'une sauce à l'eau ou au vin ? Parce qu'on le sait, ça mange du castor dans le coin, grommela Brick. Arrête maintenant, arrête ! Cria Berkov à Brick en lui lançant un regard méchant. C'est bon maintenant ! Brick obtempéra. Brock avait déjà plongé dans l'eau. Calixte plongea les yeux dans le ciel étoilé, se parlait intérieurement. « Je suis peut-être déjà mort, en fait. Et les castors occupent le tribunal de l'au-delà ? Le pâté de castor du dimanche, je vais probablement le payer maintenant. » Brick expliqua. « Notre plan, c'est de construire un immense barrage capable de dévier la rivière à l'entrée du bassin. Rien de bien sorcier. La routine, quoi ! » Calixte était en proie au désespoir. Il décrocha cependant les yeux des étoiles et revint, dépité, au présent. « Mais vous n'êtes que trois petites bêtes. Comment allez-vous déplacer tout le stock de bois ?»« Eh oh, dis donc, on n'est pas si petit que ça quand même, petit meunier !» Tu veux faire la course à la nage dans l'étang? On verra bien qui arrivera le premier sur l'autre rive. » L'impétuosité de Brick expliquait sans doute cette réponse du tac au tac. Berkov reprit la parole, plus modéré. « Oui, petit meunier, à nous trois, l'entreprise serait sans doute difficile. Mais retourne-toi donc !» En se retournant, Calixte vit une véritable petite armée de castors déjà au travail. Les rongeurs soldats avaient préalablement reçu les directives de Brock, immergés depuis quelque temps. Calixte n'en revenait pas. Tout était brillamment organisé par le triumvirat des rongeurs. Des centaines de castors œuvraient au sauvetage du bassin. Les endroits, fragilisés par les flots, furent renforcés par l'empilement des pierres, colmatées avec de la boue. Toute la construction fut réalisée à une vitesse improbable. Un groupe stockait branches et troncs d'arbres, pendant qu'un autre s'affairait à la production de matériaux de bois. Les castors, organisés en équipes spécialisées, savaient répartir les tâches selon certains attributs anatomiques. Pour le deuxième groupe, il s'agit de puissantes incisives. Une équipe des pattes puissantes était dédiée à l'empilage formant les structures du barrage. Une autre équipe de la sensibilité des griffes devait tester l'étanchéité des surélévations. Calixte observait la scène. Il ne put s'empêcher de proposer son aide. « Je peux vous aider à déplacer le bois. Je vais plonger. Ces castors ont l'air en difficulté là-bas, au bord du mur. »« Non, meunier, » reprit Berkov, « ils ne sont pas en difficulté. Ils sont là pour flotter, sans trop bouger. Ils ne peuvent rien faire d'autre. Cela nous permet de voir le niveau d'eau, de loin. Et puis, ce ne sont pas des castors, ce sont des ragondins. Ils viennent nous donner un coup de patte quand on a besoin de monde. Ce n'est pas trop compliqué de flotter, alors eux, ils font ça. Toi, tu vas t'asseoir sur le ponton et tu te contentes de nous regarder. On préfère ta sécurité à ton assistance. Comment vous dites les humains, chacun son métier? Eh bien, ton domaine, c'est la farine. Nous, c'est la gestion de l'eau. Au fait, nous avons ta parole? « Comment ça, ma parole ?» s'inquiéta Calixte en s'accroupissant sur le ponton. Berkov insistait. « Nous avons besoin de ta parole pour faire de ce domaine et de son bassin notre zone protégée de manière permanente. Promesse de ne plus nous manger, ne plus nous chasser, de ne plus blesser nos petits. Promesse d'être juste à notre égard, en fait. » Berkov avait perdu son sens de l'humour. Ses deux petits yeux noirs brillaient dans la nuit, tout comme ses incisives. Calixte ressentit un frisson parcourir tout son corps. Le silence enveloppa l'homme et les deux castors qui s'étaient dressés simultanément sur leurs pattes arrière. Le bruit sourd de la tempête avait disparu. Calixte se sentait hypnotisé par les deux animaux qui lui semblaient avoir décuplé en taille. Il se sentait désormais minuscule. La nature attendait sa réponse. « Vous avez ma promesse. Acte est pris de ta promesse. Respecte-la, si tu veux que le moulin soit protégé éternellement des colères de la bère, petit meunier. » Brick et Berkov plongèrent en un éclair pour rejoindre le balai aquatique. La rivière se déversait désormais dans le jardin. Stabilisée depuis quelques minutes, les ragondins indiquaient que le niveau commençait maintenant à baisser. Les avaloirs de sécurité ne crachaient plus d'eau. Pendant qu'ils étaient au travail, les castors riaient et chantaient. Les éclairs se firent plus rares. Une pluie dense prit le relais. Elle berçait le domaine de sa douce régularité. Au milieu de cet incroyable spectacle, Calixte exultait de joie. « Bravo, merci! Vous avez sauvé mon moulin. C'est incroyable! Merci !» Brick nageait sur le dos désormais, quand il interpella Calixte. « Tu as promis, Calixte, nous allons tous bénéficier de cette entente. Nous sommes bien d'accord. Je m'engage à vous protéger et à vous faire protéger. Ce soir, vous êtes devenus les anges du moulin. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Nous en sommes ravis, Calixte. Nous serons toujours là. Une dernière petite chose, cependant. ne raconte à personne ce qu'il vient de se passer. C'est notre secret. Et on te prendrait pour un fou. Déjà que... Ah 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 ah, ça va, je plaisante. Le castor plongea et disparut, en même temps que la centaine d'autres autour de lui. Quelques heures plus tard, le soleil pointait. Seul, Calixte était toujours assis sur le ponton. Les eaux du bassin étaient maintenant totalement calmes. La pluie avait cessé. De nombreux débris flottaient encore. En observant les berges abîmées par l'orage nocturne, il se demandait s'il n'avait pas fait un rêve. L'orage, la tempête, le déluge, les conversations avec les castors, leur assistance improbable. Tous ces événements étaient-ils bien réels? Il entendit au loin les voix de son épouse et ses deux filles. Elles couraient dans sa direction en lui faisant de grands signes. « Calixte !» criait Marie-Thérèse, son épouse. « Papa, tout va bien ? Nous avons tellement eu peur pour toi. Tu as réussi à t'en sortir, tout seul. Mais papa, comment as-tu fait tous ces barrages ?» demanda Anne, regardant l'étang. « Ma chérie, la nature et ses armées peuvent tout donner et peuvent tout reprendre. Cette nuit, elle nous a épargnés. » Marie, sa deuxième fille, le prit par la main. « Papa, je ne comprends pas ce que tu dis. Tu es sûr que tout va bien ? Viens te réchauffer, tu es trempé. Tu dois certainement mourir de faim aussi. » Calixte était heureux. Il regarda l'entrée de la Bastide en repensant aux conversations de Bric, Brock et Berkoff. Se dirigeant vers l'entrée du moulin, Calixte dit tendrement à son épouse « Tu sais que je ne mange plus de viande ? Une omelette fera l'affaire. » « Dis donc, Calixte, je ne sais pas ce qu'il s'est passé ici cette nuit, mais pour que tu ne manges plus de viande, c'est du sérieux. » Marie-Thérèse riait. De l'autre côté de l'étang, les trois castors observaient la scène familiale. Les concernant, un petit branchage à rogner faisait l'affaire pour le petit déjeuner. Flottant, ventre à l'air, Berkoff s'adressa à Bric. « Bric, tu ne le trouves pas trop grand, toi, le saule pleureur du pont du Loup. Je pense que ses racines perturbent la rivière. T'as rien à faire, là !»